cours de philosophie éthique de Père Marie-Dominique Philippe, le 11 novembre 1999 à Saint-Gérard.
Peut-on comprendre que l'amour d'amitié est second par rapport à la recherche de vérité, alors même que cette recherche de vérité ne nous a pas encore fait découvrir l'être premier? Oui, sûrement. Parce que on sait très vite, dès que l'intelligence s'éveille en nous, c'est-à-dire dès qu'on a l'âge de raison, quand l'intelligence en nous s'éveille, on commence à découvrir ce que c'est que la vérité. Et on découvre que la vérité, dans son objectivité, est ce qui structure toute notre recherche profonde, personnelle. Et que la vérité est nécessairement première, quand j'ai dit première, plus absolue, que l'amour d'amitié, qui dépend de notre choix. Est-ce que la vérité dépend de votre choix? Posez-vous la question, loyalement. Ou est-ce que la vérité, c'est quelque chose qui s'impose à vous? Dans la recherche même de l'intelligence. Donc, l'intelligence a quelque chose de plus radical et plus fondamental en nous que le point de vue de l'amour. Et on sait qu'en aimant l'ami, en se choisissant l'ami, on choisit quelqu'un qui nous dépasse d'une certaine manière, mais qui, d'une autre manière, est proche de nous. Il y a une connaturalité avec nous. La vérité a une connaturalité avec nous, mais par rapport à notre esprit. Ce n'est pas l'homme, c'est notre intelligence. Est-ce que notre intelligence, comme intelligence, n'est-elle pas ce qui fait ce par quoi nous sommes hommes? C'est le principe qui fait que toutes nos activités sont humaines, parce qu'elles sont sous le contrôle de cette recherche de la vérité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ça de l'amour. Vous voyez ? Il y a différents degrés d'amour, et quand j'atteins le point de vue de l'amour à l'égard de l'ami, j'atteins un amour qui est en connaturalité avec moi. Tandis que mon intelligence me dépasse. Elle va plus loin, elle recherche la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement la connaissance de mon voisin. Ce n'est pas seulement la connaissance de mon ami. La vérité, elle va plus loin. Parce qu'au monde, il n'y a pas que mon ami. Il y a d'autres personnes. Et je connais ces autres réalités. Je recherche par la philosophie la vérité. Et je peux me poser la question très vite. Y a-t-il quelqu'un de plus grand que mon ami? Y a-t-il quelqu'un qui est au-dessus de mon ami? Ça, je recherche dès qu'il y a recherche de vérité, par l'intelligence. Pas l'amour. L'amour ne recherche pas ça. L'amour, dès que je vois un ami, je m'y arrête. Et la tentation, c'est de m'y arrêter, de me dire, il n'y a rien d'autre. Oui. Et c'est ça que j'appelle le beurre ranci. Et l'amour d'amitié devrait augmenter en moi le désir de la vérité. Et l'amour de mon ami peut très bien m'arrêter dans cette recherche de la vérité. Et c'est là où je dois avoir suffisamment de lucidité sur moi-même pour comprendre que la recherche de, que l'amour d'amitié m'aide à me dépasser. L'ami est toujours celui qui m'aide à me dépasser. Et comment me dépasser? Par la recherche de la vérité. Je ne peux pas me dépasser autrement. Donc vous voyez, c'est peut-on comprendre que l'amour d'amitié est second? J'aime pas vous dire second par rapport à la recherche de la vérité, parce qu'il n'est pas second, il est d'un autre ordre, mais il s'efface devant cette recherche de la vérité. Parce que je me pose la question aussi, qu'est-ce que représente l'amour d'amitié dans cette recherche de la vérité? Si on n'a pas encore découvert une sagesse, comment ne pas s'arrêter sur le haut plateau de l'amour d'amitié? Je découvre la sagesse quand je découvre l'être premier. Alors vous voyez là, si on n'a pas encore découvert une sagesse, donc Dieu, l'existence de Dieu, comment ne pas s'arrêter sur le haut plateau de l'amour d'amitié? Mais c'est que justement, l'amour d'amitié va me faire connaître ce qu'il y a de plus secret dans mon ami. Et dans mon ami, si c'est un véritable amour, il a un amour de la vérité. Et c'est lui qui sera là pour me rappeler, cherche la vérité, dépasse l'amour d'amitié, vos chers amis. Un véritable ami, normalement, est intelligent. Normalement, vous pouvez évidemment aimer quelqu'un qui ne soit pas intelligent, parce que vous êtes plein de miséricorde, alors vous pouvez aimer quelqu'un qui n'est pas intelligent et qui se replie toujours sur lui-même, c'est possible. Mais le véritable amour d'amitié, c'est aimer dans l'ami l'homme, qui est ami. Et dans l'homme, il y a l'intelligence. Et dans l'ami, il y a l'intelligence de mon ami. Et l'éveil de l'intelligence de mon ami, c'est la recherche de la vérité. Dès que votre intelligence touche ce qui est comme autre que vous, je sais que la vérité me dépasse. Mais c'est très vrai qu'hélas, dans le climat dans lequel on est aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de recherche de la vérité. Ça, il faut le reconnaître. Alors, à ce moment-là, l'amitié semble ce qu'il y a de plus grand. Je dis bien, semble ce qu'il y a de plus grand. Et qu'il faut du temps avant que mon intelligence s'éveille. C'est tout ce que nous faisons, hein. La philosophie que nous faisons, même au noviciat, c'est pour que l'intelligence s'éveille. Et que très vite, nous reprenions le point de vue profond que cette recherche de la vérité est quelque chose de capital dans notre vie. Pour nous et pour l'humanité. Et pour l'Église, par le fait même. Mais ici, toujours, toute nouveauté qui doit être faite pour nous doit se faire dans cette attitude. Est-ce que ça nous aide à la recherche de la vérité? Si ça ne nous aide pas dans la recherche de la vérité, eh bien attention, attention, ça peut être un obstacle. Parce qu'il n'y a pas de neutralité dans notre vie. Il n'y a pas de neutralité. Mais la neutralité politique n'est pas un absolu. C'est un choix qu'on fait. Mais ce n'est pas un absolu, au niveau politique. Au point de vue personnel, il n'y a pas de neutralité. Vous devez tout de suite opter pour la vérité ou l'erreur. On ne vous laisse pas tranquille là-dessus. Et celui qui a l'âge de raison, c'est celui qui opte pour la recherche de la vérité. Autrement, votre intelligence est endormie, comme une marmotte. Vous avez peur des autres, alors vous entrez dans un trou. Et je vis avec ma vérité. Ma vérité, c'est de pouvoir avoir une nourriture le matin, à midi et le soir, de pouvoir dormir tranquillement. Voilà ma vérité. Alors évidemment, cette vérité-là, elle ne dépasse pas beaucoup l'amitié. Je t'aime si tu ne me déranges pas le matin à mon petit déjeuner, si tu ne me déranges pas à midi, si tu ne me déranges pas le soir, si surtout tu ne me déranges pas la nuit, parce que j'ai besoin de dormir. Ça, c'est une amitié, mais très très bourgeoise, hein, très petit bourgeois. Ce n'est pas l'amitié qui vous éveille à une recherche de vérité plus grande. Pouvez-vous revenir sur ce passage de la découverte de l'ami fin à la découverte d'un être créateur et père? Est-ce que passer de l'être créateur au père ne mérite pas la foi? La plupart du temps, oui. Mais en absolu, de recherche philosophique, non. C'est ça que je vous vois. Hein. C'est vrai, quand on est dans un pays qui a été chrétien, il reste quelque chose. La foi s'est diluée dans une foi, dans une tradition. Parce que ce qui arrive très souvent, que la foi se dilue dans une tradition. On a toujours fait ça. On va à la messe le dimanche. Tu sais pourquoi? Ah non, on va à la messe le dimanche. C'est bien. Et là, on rencontre les gens bien. À peu près. Pas toujours, on rencontre des fois des pauvres types qui ont l'air de se reposer là, qui viennent là pour recevoir un peu d'argent. Alors c'est un inconvénient. Mais autrement, la plupart du temps, ce sont des gens bien. C'est bien. C'est ce Normand qui me disait, on va à la messe le dimanche, ce jeune Normand, pour trouver des filles bien. Parce que les filles qui vont à la messe le dimanche, ordinairement, sont bien. Tandis que si je vais dans d'autres lieux, je risque de trouver une crapule. Je n'ai pas envie du tout. Il disait ça sérieusement. Quand j'avais 17 ans. J'étais bien obligé de lui dire, c'est vrai, tu as raison. Va à la messe le dimanche. Va à la messe le dimanche pour trouver des filles qui sont bien. Mais c'est celui-là qui m'a raconté ça. Il était un bon garçon, très chic. J'avais remarqué là, oh, il y avait une fille qui paraissait très bien. Finalement, je la regardais plus que l'hôtel. C'était mieux. J'allais à la messe pour elle. Et bien alors, un jour, il fallait quand même lui déclarer que j'aime bien. Alors, je ne savais pas comment faire. Si vous habitiez là, je vous aurais demandé conseil comment faire pour lui déclarer comment je l'aime bien. Alors, je ne savais pas. Je ne pouvais pas dire ça à quelqu'un. Je m'aurais trouvé un imbécile. Pas savoir déclarer mon amour. Mais je ne savais pas comment faire. Alors, j'ai trouvé le truc. Elle était passée devant moi, c'était mieux, je la laissais passer devant moi, puis je la suivais tout près. Puis là, je lui dis, comment? Elle parlait avec ses copines, comment l'attirer vers moi? Alors, je lui ai donné un bon coup de poing sur l'épaule. En lui disant, je t'aime. J'ai trouvé ça tellement bien. Si ça m'est resté. C'est tellement vrai, du reste, hein. Alors les copines, j'en ai peur. Elle m'a regardé à ce moment-là. Alors j'étais désarmé. Je lui ai dit, je t'aime. Alors, elle m'a dit, mais tu m'aimes violemment. Oui, mais je dis, rien n'est plus violent que l'amour. Et c'est vrai, vous pouvez pas lui dire autrement. Hein. C'était très vrai. C'était en Normandie. Alors, essayons de comprendre. C'est l'éveil de l'amour, c'est l'éveil de cette recherche de la vérité qui me permet de comprendre que l'amour d'amitié, c'est très bien, c'est très beau, c'est très noble, ça me donne confiance. Je suis capable d'aimer quelqu'un et je suis capable d'attirer l'amour de quelqu'un. Ça me rend confiance en moi. Et alors, à ce moment-là, on est un petit peu grisé par ça. Et donc, sur le moment, on trouve que c'est rien de plus. C'est normal. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui commence à aimer que non, c'est rien. Non, laissez-le. Et puis après, petit à petit, dès qu'on s'aperçoit que l'ami a des défauts, il y a des limites. Dès qu'on s'aperçoit de ça, on s'aperçoit que ça ne peut pas être pour moi ce qui me satisfait pleinement. Je m'aperçois qu'il est mon ami, qu'elle est mon amie, c'est très bien, c'est très beau, mais elle a aussi sa personnalité, que j'accepte du reste. Mais donc il y a quelque chose de plus. Il y a l'existence de l'ami qui est irréductible. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est toujours par l'essai, l'existence, l'acte d'être. C'est toujours par l'acte d'être que je dépasse. C'est l'être qui me conduit à Dieu. C'est vrai, c'est l'être qui me conduit à Dieu. C'est que je vois que dans mon ami, il y a quelque chose d'autre que l'ami. Et je le découvre en moi. Et donc, il y a une recherche de vérité. Vous voyez, la découverte que dans l'ami, il y a autre chose que l'ami, il y a sa propre existence. Ça me met dans la vérité. Et que je découvre que la vérité a quelque chose de plus grand que l'amour d'amitié. Et si je ne veux pas le voir, je m'enferme dans mon amour. Et à ce moment-là, je deviens féminologue. J'aime plus mon amour que la vérité. J'aime plus l'amour de l'autre. De l'autre, c'est en réalité moi, que la vérité. Quand vous découvrez que l'autre existe au-delà de l'amour que j'ai pour lui et au-delà de l'amour qu'il a pour moi, je suis dans la vérité. Et je recherche la vérité comme quelque chose de plus grand. Et ça, c'est capital. Bon, une fois que j'ai découvert l'existence de Dieu, que je le découvre comme la vérité et comme une vérité qui pour moi est capitale puisque je découvre la source de mon être et je découvre la source de mon intelligence. Je découvre que celui qui est mon créateur, est en même temps mon père. Créateur de mon être, père de ma vie. De ma vie intellectuelle, la recherche de la vérité, de ma vie affective, l'amour que j'ai pour l'autre. Voyez, ce passage se fait par le point de vue de la vie. C'est, pour moi, vivre humainement, c'est rechercher la vérité. Pour moi, vivre humainement, c'est aimer l'autre. Je découvre donc ce qu'est ma vie humaine. Ma vie humaine est là comme fruit d'aimer. Mais ma vie humaine a quelque chose de plus radical que mon amour d'amitié. Et cette vie humaine qui est en moi se développe, se précise dans la recherche de la vérité. La vie d'intelligence, la vie de mon intelligence. Et je découvre qu'il y a dans mon intelligence quelque chose qui dépasse mon être, qui va plus loin que mon être, qui va plus loin que mon amour. Et je me pose la question, y a-t-il une réalité qui m'attire sans que je le sache? Et ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que j'ai une telle soif de vérité? C'est qu'il existe un être qui est la vérité et qui est tout proche de moi et qui veut que je dépasse le point de vue simplement de l'amour d'amitié que j'aille plus loin. Parce que cet être, il existe avant moi. Il est mon créateur. Et il est le père de mon âme et le père de ma vie. C'est très curieux, hein. C'est que la paternité regarde la vie. Vous n'êtes jamais posé la question, hein. Elle ne regarde pas l'être. Elle regarde la vie. La paternité. Le père, c'est celui qui est source de ma vie. Et le père, qui est le père premier, est source aussi de mon être. Et je découvre d'abord qu'il est source de mon être, puis source de ma vie. Pourquoi la paternité regarde le point de vue de la vie? Parce que la paternité se situe toujours du côté de la finalité. Le Père, c'est celui qui me promet une plénitude de vie dans mon bonheur. Le Père, c'est celui qui m'apporte cette plénitude de vie, le patrimoine, son patrimoine, il me le donne. Le Père a travaillé pour son Fils, pour lui et pour son Fils. C'est ça le Père. Et il lègue à son Fils tout le fruit de son travail. Le Père, c'est celui qui veut que le Fils hérite. Toujours la paternité est liée à l'héritage, vous voyez. Un père qui déshérite est un père qui, justement, ne reconnaît plus son fils comme fils. Et là, j'allais dire que l'écriture, que je peux lire en tant que philosophe, me montre ça, de façon étonnante. La paternité est toujours liée à l'héritage. Parce que la vie est liée à la finalité. C'est pas seulement voir l'origine, c'est très important, mais c'est la finalité. Pour caractériser ce qu'est la vie chrétienne, je regarde la finalité, le bonheur, voir Dieu face à face. C'est ça le propre de la vie éternelle. Alors ça, c'est le propre de la vie. C'est que la vie ne peut pas se comprendre en dehors de la finalité. Et alors tout de suite, vous voyez là que la vie n'est pleinement vie que lorsque c'est une vie qui implique l'intelligence et le cœur et la volonté. La vie végétative, c'est une vie au ralenti, très terrestre, très terrestre. Je ne la néglige pas, puisqu'il y a en moi un corps qui crie la nourriture et qui a besoin de nourriture. Mais au fond, c'est très, très, très bas. Hein. C'est le point de départ de la vie, ça. Ah, il respire. Tant qu'il respire, il y a vie. Il mange et il dort. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Hein? Sa vie végétative va bien. Puis après, c'est la vie des passions. Lorsqu'il vit ce petit gosse, il se remue tout le temps. Il bouge tout le temps. Il se meut. Et c'est vrai, la vie humaine est liée à ça. Et puis, la vie intellectuelle, cette recherche de la vérité, qui peut s'éveiller très vite dans un climat chrétien. Je vous posais cette question d'une mère qui me parlait de son fils et qui, évidemment, son fils était le plus intelligent de tous les fils, ce qui est très bien, du reste. Pour la mère, c'est le plus intelligent, j'en suis sûr. Elle me dit, une fois qu'il avait 4 ans, il m'a posé une fois, je lui versais son petit déjeuner. Il me dit, maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Recherche de vérité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Sans avoir aucune expérience de l'éternité. Mais sauf, au matin, on a l'expérience du temps. Hein, ça, c'est sûr. Le petit déjeuner, c'est dans le temps. se poser la question. Et alors, comme il posait cette question et qu'il ne prenait pas son petit déjeuner, sa mère lui dit, « Prends ton petit déjeuner, il va refroidir autrement, avant que tu découvres l'éternité. » Sur quelle éternité? Donc elle le blague un peu. Puis elle le laisse. Il a l'air d'être entêté. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? La mère n'y avait jamais pensé. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Et lui, petit gosse, cherchait la vérité. Alors la mère s'en va, elle revient, il est en train de prendre son café et son lait. Alors elle dit, alors tu as trouvé? Ça, c'était un peu une parole qui est une mauvaise éducation. Hein. Elle ne devait pas lui poser. Parce que s'il n'avait pas trouvé, je comprenais. La mère lui montrait que c'était mieux de manger tout de suite que de chercher la vérité. Ça, c'est très mauvais. Ça reste. Alors, il répond oui. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, il fait le signe, il fait le geste. L'éternité, c'est ça, maman. C'est que le point de départ et le terme se tiennent. Et donc, le café ne devait pas refroidir. Mais le café étant dans le temps, refroidit. Mais s'il était dans l'éternité, il ne refroidirait pas. Ah, la mère était baba, hein, dans son fils. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est le symbole premier d'éternité, c'est toujours le cercle. Point de départ et le terme se tiennent. Tandis que la ligne droite, c'est le temps. La mère avait retenu ça. Et quand son fils avait 30 ans, il se posait d'autres questions. Ce petit, quand il avait 4 ans, se posait cette question-là. Oui, l'éveil de l'intelligence, c'est qu'au fond, l'enfant pose des tas de questions. C'est parce qu'on ne les répond pas. Enfin, on ne lui répond pas. Alors, il se fatigue. Ça ne sert à rien de poser des questions, on ne répond pas. Les grandes personnes, ils ne répondent pas aux personnes. Ils ne se posent pas de questions. Ils mangent. Tandis que l'enfant pose des questions. Et éveiller l'intelligence, c'est répondre aux questions. Si on ne répond pas aux questions, on dit, c'est pas la peine, pose pas de questions, c'est vain. L'éveil de l'intelligence, poser des questions. Et si on y répond, on coopère à cet éveil. Et on coopère à ce fait qu'après donner une réponse, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. Et la dernière, existe-t-il un être premier? On parle de Dieu, mais je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'il existe vraiment? La question de l'enfant, très très vite. On parle de Dieu, mais est-ce qu'il existe? Je n'ai jamais vu. Et quand la mère dit, on va voir Dieu, on va prier, Dieu est là. Oui, mais je ne vois rien, moi. Je ne vois rien. Elle a dit que Dieu est là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Oui, au fond, l'éveil de l'intelligence est beaucoup plus rapide qu'on ne pense. Mais parce qu'on l'a éteint, alors il fume. Comme la bougie qu'on éteint, elle fume. Pendant un certain temps, puis après elle ne fume plus du tout. Il faut la rallumer. Et le noviciat, c'est se reposer des questions. Le noviciat d'intelligence. On se repose des questions. Puis petit à petit, ça vient. Alors, voyez, comment adorer, c'est reconnaître l'actualité, l'éternité, et donc l'actualité de l'acte créateur à l'égard de mon âme. Et reconnaître que actuellement Dieu crée mon âme. Et puisque Dieu crée mon âme actuellement, je le reconnais. Et reconnaître que Dieu crée actuellement mon âme, c'est nécessairement me mettre dans l'attitude de celui qui reçoit tout gratuitement. Je n'existais pas avant. Alors, je raisonne à ce moment-là, autant que je peux le faire. Et puis je le demande à des gens intelligents, à ma mère. Qu'est-ce que c'est que la création de l'âme? Qu'est-ce que c'est qu'adorer? Adorer, c'est reconnaître le Dieu créateur de mon âme. C'est d'abord une question de connaissance. Reconnaître ça. Reconnaître une réalité actuelle. Qui, cette réalité actuelle, est éternelle. Vous voyez, le premier jugement qui touche l'éternité, c'est que Dieu est Père de mon âme. Il est Père de ma vie, il est Père de mon être. Dieu est Père. Parce que Dieu est Père, je veux savoir quel est l'acte qui le fait Père. Vincent. L'acte créateur est un acte qui me saisit radicalement. Il n'y a rien avant. Il y a tout après. Donc c'est un acte qui me saisit radicalement. Et donc l'attitude que je peux avoir seulement, c'est une attitude radicale de se prosterner devant Dieu en lui disant qu'il est pour moi source de vie, source d'être. Alors, quand je découvre cet acte comme un acte d'une gratuité absolue, quand je découvre que cet acte ne change rien en Dieu, que c'est de la pure gratuité, je réponds à Dieu dans l'attitude de celui qui a tout reçu de lui. Et qui, parce qu'il a tout reçu de lui, s'efface complètement en face de lui. Il est en sa présence. La présence d'immensité. Dieu comme créateur a cette présence d'immensité, c'est-à-dire qui prend tout. Il n'y a rien en dehors de l'acte créateur de Dieu. Tout a été créé par Dieu. Pas de la même façon, et c'est là où je distingue, la création de mon âme et la création de mon corps. Au sens strict, mon corps n'est pas créé par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des intermédiaires. Il y a eu des causes secondes. Et ces causes secondes font que l'acte du Dieu sur moi n'est pas immédiat. Il est à travers les causes secondes. C'est donc le gouvernement de Dieu. Dieu a voulu l'existence de mon corps. Il a voulu que cette existence de mon corps se fasse par l'âme et non pas en dehors de l'âme. Pour qu'il ait un droit divin sur l'existence de mon corps. Il a un droit divin sur l'existence de mon corps. Et c'est pour cela que dans l'adoration, c'est pas seulement mon âme, c'est mon âme et mon corps. Si Dieu n'était pas l'auteur de mon corps, l'auteur de l'existence de mon corps, par mon âme, je ne pourrais pas fonder la prière liturgique. C'est mon corps qui reconnaît que Dieu est omniprésent. Et c'est par là que j'accepte que l'adoration puisse se faire en commun. Et non seulement je l'accepte, mais je comprends qu'elle doit se faire en commun pour que mon corps puisse manifester. Et là, je reconnais qu'il y a quelque chose de différent au plus intime de mon âme. C'est un acte très intérieur, l'adoration. c'est l'acte humain le plus intérieur et donc le plus premier de mon intelligence et de mon amour. Et c'est un acte qui rayonne sur mon corps. Et c'est pour ça qu'il y a une liturgie de l'adoration. Mon corps, quand il adore, ne se tient pas comme lorsqu'il dort. Je remets mon corps entre les mains de Dieu. Et mon corps prend l'attitude de celui qui se remet entièrement à son Créateur.